On va ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu. Le passage que nous allons méditer ensemble se situe dans ce chapitre 6 de Matthieu. Jésus, lorsqu'il va commencer son ministère, il va donner un certain nombre d'enseignements à ses disciples et à ceux qui étaient à ses côtés. Et principalement, il va parler des inquiétudes. Il va montrer qu'il y a dans la vie des hommes des sujets d'inquiétude, des choses qui peuvent prendre le dessus. Mais Jésus va encourager ses disciples à ne pas s'inquiéter, à ne pas se soucier, mais à faire confiance à Dieu. Et c'est pour cela qu'il va dire ceci et cette parole qui va encourager les disciples et l'Église de Jésus-Christ que nous sommes, en leur montrant comment le chrétien pourrait vivre pour ne pas laisser les inquiétudes et les soucis de la vie envenimer sa vie au point qu'il passe à côté de la bénédiction de Dieu. Après avoir parlé de toutes ces choses, Jésus va dire ceci au chapitre 6, versets 33 et 34. « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. » Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. L'une des principales préoccupations des hommes de ce monde, c'est de dominer le monde. Voilà une des préoccupations des hommes de ce monde. Et pour parvenir à leur fin, ils laissent pénétrer dans leur cœur des choses qui ont pris la place du divin Créateur. Beaucoup des choses prennent la place de Dieu dans le cœur des hommes. Et malheureusement, parfois, même dans le cœur du croyant, même dans nos propres cœurs, des choses peuvent s'installer au point que Dieu, le Créateur, qui nous a créés, qui nous a libérés de notre vaine manière de vivre et qui est venu habiter nos cœurs, n'a plus la place qui lui revient. Beaucoup de choses qui sont en concurrence pour occuper la première place, et parfois même des choses parfois légitimes. Ça peut être des choses légitimes qui sont nourries à l'intérieur de nos cœurs et qui constituent des préoccupations majeures. Vous savez, elles risquent d'y parvenir si l'enfant de Dieu ne prend pas garde, ne prend pas la ferme décision d'accorder la place à Dieu dans tous les domaines de sa vie. La question que l'on pourrait se poser, comment faire? Pasteur, vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde. Il y a toutes sortes d'agitations, il y a toutes sortes de choses, il y a les soucis de la vie. Et nous savons bien que même en tant que chrétiens, nous faisons face à ces choses-là. Nous sommes dans ce monde, donc étant dans ce monde, nous subissons parfois les choses que les autres vivent. Mais nous pouvons réaliser tout de même que le Seigneur a montré et il montre à son Église deux choses à rechercher activement et assidûment pour nous préserver véritablement de ces inquiétudes. Il nous montre ce qu'il faut chercher. Et c'est ce qui fera l'objet de notre méditation aujourd'hui. Jésus dira, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement. Il y a dans ce passage un principe de vie que Jésus a établi avec ses disciples, en leur disant que s'ils ils prennent d'abord en compte les intérêts de Dieu, Dieu s'occupera de leurs besoins. N'est-ce pas merveilleux? Si on s'occupe des choses de Dieu, Dieu s'occupera de nous. Mais parfois, nous avons tendance à vouloir que Dieu s'occupe de nos affaires. Et lorsqu'il le fait, on ne prend pas soin de s'occuper des intérêts de Dieu. Qu'est-ce que cela implique pour le chrétien? Quel puissant encouragement le Seigneur donne à ceux qui le suivent dans un monde où les hommes ne pensent et ne vivent que pour eux-mêmes et s'inquiètent du présent et de l'avenir. Oui, les hommes pensent qu'à eux-mêmes. Les hommes vivent pour eux-mêmes. Malheureusement, cette façon de vivre a pénétré nos églises. Même le chrétien, parfois, pense qu'à lui-même. Il pense qu'à ses propres besoins. Il pense qu'à ses propres intérêts. Il ne vit parfois que pour lui-même. Même étant sauvé, il se dit qu'il ne prend pas soin des autres, il ne prend pas soin de Dieu. Et pourtant, cherchez. Aujourd'hui, nous verrons ensemble la première partie. En quoi consiste le royaume de Dieu? Et pourquoi devons-nous le chercher assidûment? Pourquoi porter un intérêt à cette chose-là? Vous savez, chercher quelque chose, c'est déjà réaliser que la chose est importante pour nous. Si quelque chose n'est pas important pour moi, à quoi bon me livrer à rechercher la chose? Si quelque chose n'a pas de valeur à mes propres yeux, à quoi bon dépenser de l'énergie? Vous savez, parfois même les hommes de ce monde cherchent parfois des choses, c'est parce qu'ils ont placé un intérêt à la chose. Et ils courent ça et là. Ils donnent de leur énergie. Ils disposent du temps à la recherche jusqu'à ce qu'ils obtiennent la chose. Donc, c'est réaliser que cette chose est importante, digne de notre attention. Vous savez, en grec, le verbe chercher implique l'idée de s'efforcer d'obtenir quelque chose. La question que l'on se pose, que cherchent les hommes en priorité aujourd'hui? Que cherchez-vous en priorité? Que cherchons-nous en priorité aujourd'hui? Jésus dira, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Nous trouvons dans les évangiles trois expressions identiques. Royaume de Dieu, royaume des cieux, règne de Dieu ou le règne. Ces trois expressions veulent dire la même chose. Matthieu utilise le terme, l'expression royaume des cieux. Parce que, par respect pour le nom de Dieu, les Juifs ne prononçaient pas le nom de Dieu. C'est pour cela qu'en tant que Juif, Matthieu, comprenant ses contemporains, il va utiliser « royaume des cieux ». Mais quand nous voyons, nous lisons dans l'évangile de Luc ou dans l'évangile de Marc, c'est le terme « royaume de Dieu » qui est utilisé ou « le règne de Dieu ». Qu'est-ce que ce terme veut dire? Lorsque Jean-Baptiste, le dernier prophète de l'Ancien Testament, celui qui a été choisi par Dieu pour préparer la venue du Seigneur, lorsqu'il prêchait Jean-Baptiste, quelle était la substance de sa prédication? Quel était l'objet du message qu'il véhiculait à ceux et à celles qui l'écoutaient? Jean-Baptiste, lui-même ayant été choisi par Dieu pour préparer le chemin de la venue du Messie, du Seigneur Jésus, son message était ceci. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il était conscient, lui, de ce qui allait venir. Il était conscient de cela. Et c'est le même message que Jésus, lorsqu'il va commencer son ministère, va adresser à ceux et à celles qui l'écoutaient. Dans Matthieu chapitre 4, verset 17, Jésus avait le même message, « Repentez-vous, car le royaume des cieux. » Aujourd'hui, le royaume de Dieu se manifeste par la présence de Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit. C'est Jésus le Sauveur qui, par sa venue sur terre, a inauguré ce royaume-là. C'est lui qui est venu lorsque Dieu s'est incarné dans l'histoire humaine en tant qu'homme. C'était de la volonté de Dieu de se présenter aux hommes, de venir sur la terre des hommes pour se révéler aux hommes. Si Dieu ne s'était pas révélé en tant qu'homme, personne d'entre nous, aussi intelligent que nous sommes, aussi sage que nous sommes, aucun homme sur la terre, si Dieu ne s'était pas révélé en tant qu'homme, aucun n'aurait la sagesse et l'habileté de le comprendre et de le connaître. Il a fallu que Dieu se présente en tant qu'homme. C'est pour cela que la venue de Jésus va inaugurer ce royaume-là. Aujourd'hui, il règne dans le cœur de ceux et celles qui l'ont accepté comme Sauveur et Seigneur. Il règne dans nos cœurs. Il règne en nous. Et ce règne ne sera pleinement établi qu'après le jugement du monde et la disparition de tout mal. Vous savez, chercher le royaume en de Dieu et toutes choses vous seront données. Ceci implique l'idée que, voilà, c'est faire du règne de Jésus notre priorité. Une priorité absolue. La priorité aujourd'hui dans notre monde, au regard des événements que nous vivons, il y a là cette priorité que les gens cherchent, et parfois même dans nos églises, on prie, on dit « Seigneur, tu vois la situation, voilà, que ta paix vienne, que ta paix règne, Seigneur, arrête cette situation. » Mais vous savez, même en tant que croyants, parfois nous passons à côté de ce que Dieu veut pour nous. Il n'est pas mal de prier pour la paix dans notre monde. Il n'est pas mal de demander à Dieu d'agir et d'intervenir, mais le croyant devrait avoir cette sagesse, et vous et moi, nous devons avoir la sagesse de dire « Seigneur, quelle est ta priorité ?» Même au sein de ce trouble, même au sein, Seigneur, de cette difficulté que le monde vit, au sein de cette difficulté que les hommes et les femmes traversent, qu'est-ce que tu veux en priorité ? Que veux-tu nous montrer ? Que devons-nous apprendre de toi ? Jésus, par cette parole, lorsqu'il va exhorter ses disciples à faire du royaume l'objet de leur recherche, il montre une réalité absolue. C'est qu'être chrétien, être disciple, au regard de la mentalité qui est là dans ce monde, il y a deux mondes en parallèle. Il y a deux royaumes en parallèle. Il y a le royaume de Dieu. Il y a également le royaume de Satan. Et il faut réaliser que, voilà, ces deux royaumes-là sont une réalité. Dieu règne sur la terre. Mais n'oublions pas que le diable également n'est pas... il est actif, il est à l'œuvre. Il essaye de tout faire pour empêcher les hommes de se tourner vers Dieu, pour être éclairés et être sauvés et être libérés de la condamnation du péché. Donc il est activement présent. Il s'active dans notre monde, dans notre société. C'est une évidence. Mais nous n'allons pas donner plus d'importance à ce royaume-là. Nous voulons donner plus d'importance à celui qui est venu nous dégager de la condamnation du péché, à celui qui, ayant vu notre souffrance, notre misère, parce que le péché nous avait enveloppés, nous étions là, sans Dieu, sans espérance, privés de la grâce de Dieu. Et si Dieu n'était pas à l'œuvre, s'il n'avait pas agi, nous serions pour toujours voués à la perdition. Mais gloire soit rendue à Dieu, comme Paul va le dire aux chrétiens de Colosse, béni soit Dieu le Père, qui par sa puissance nous a transportés de la puissance des ténèbres pour nous amener dans son royaume de lumière. Elle est là, cette réalité-là. Nous étions, avant notre rencontre avec le Seigneur, de ce royaume, du royaume de Satan, à cause du péché. Et aujourd'hui encore, c'est une réalité, même si les hommes ne veulent pas l'entendre. Ils sont dans ce royaume parce qu'ils n'ont pas fait la paix avec Dieu. Ils n'ont pas livré leur vie au Seigneur. Mais puisque le chrétien, le croyant, a livré sa vie au Seigneur, quel doit être l'objet de sa recherche? Quelle doit être sa priorité? Est-ce pour nous-mêmes? Jésus voyait ses contemporains vivre. Il savait qui est-ce qui pouvait occuper le cœur. Regardez ce qu'il va dire. Au verset 19, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. » De vous à moi, cette parole qui a été écrite il y a plus de 2000 ans est encore d'actualité. Pourquoi? Parce que les hommes sur la terre s'activent ardemment à rechercher les trésors de la terre. Chacun peut avoir tout pour son compte. Mais qu'est-ce qu'il va dire Jésus alors qu'il s'adresse à l'Église, à ses disciples? Ne vous amassez pas des trésors. Le texte que nous avons lu en introduction pour la scène, Paul va encourager les chrétiens en disant ceci: affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Il y a là cette décision, un choix de vie que vous et moi, nous devons faire, une priorité absolue. Jésus continue de dire ceci, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Où sont nos cœurs aujourd'hui, frères et sœurs? Où sont nos cœurs aujourd'hui? Parce que nos priorités déterminent vers où sont dirigés nos cœurs. Nos priorités. Car là où est ton trésor, là sera ton cœur. Jésus montre, qu'il y a des attachements qui sont secondaires. Il y a des attachements qui sont secondaires, mais il dit « cherchez ». Chercher. Vous savez, on n'a pas besoin de bac plus 5 pour être un chercheur dans ce domaine-là. Amen. Oui, je n'ai pas besoin de bac plus 5 pour être un chercheur. Et un chercheur de quelque chose d'éternel. Un chercheur de quelque chose qui va m'amener à vivre dans le bonheur aujourd'hui et ce pour l'éternité. Vous et moi, frères et sœurs, ayant été sauvés par grâce, ayant goûté à l'amour de Dieu, et puisque le Seigneur vit dans nos cœurs, il nous donne cette force-là d'être des chercheurs. Des chercheurs de quelque chose qui en vaut la peine. C'est-à-dire la priorité qui intéresse d'abord le cœur de notre Père. Vous savez, Jésus, par cette parole, révèle qu'être disciple, c'est nous détourner de notre égocentrisme. C'est lui laisser le contrôle total de notre vie. Parfois, on a tendance à dire que les hommes du monde vivent égoïstement, que les hommes du monde sont égocentriques. Mais quand on s'examine soi-même, sans juger qui que ce soit, quand je regarde à ma propre vie, ne suis-je pas parfois égoïste? Ne sommes-nous pas parfois égocentriques? Tout est centré sur nous. On l'a chanté ici tout à l'heure, tout est centré sur toi et pas sur moi. Parfois, frères et sœurs, écoutons nos prières. C'est là que l'on réalise à quel point les priorités nous font défaut. Je ne dis pas de ne pas prier lorsque nous sommes dans le besoin. Excusez-moi, ne me faites pas dire ce que je ne vous ai pas dit. Je ne dis pas de ne pas prier pour nos besoins. Je ne dis pas de ne pas prier lorsque nous sommes dans une difficulté. Parce que, voilà, l'être humain, le corps, nous n'étions pas faits à la base pour ces choses-là. Mais c'est le péché qui nous a introduits. Même si nous avons la grâce de Dieu, nous sommes toujours soumis aux conséquences. Nous sommes comme les autres dans le besoin. Nous sommes comme les autres. Parfois, le corps voilà, s'use. Parfois, il y a la maladie. Et ce n'est pas parce que je suis chrétien que mon corps ne sera pas malade. Non. Ce n'est pas parce que je suis chrétien que je ne serai pas dans un besoin. Mais parfois, ces besoins-là prennent toute la place. Parfois, au lieu de donner la priorité au Seigneur, parfois, au lieu de centrer nos regards, tellement le problème est là, tellement la difficulté est grande, nous l'avons placé tellement haut que nous n'avons même plus la force de regarder au-delà pour voir celui qui a la puissance et la capacité de nous venir en aide. Alors que par la puissance de Dieu, tout est venu à l'existence. Dès le commencement, c'est par la puissance de Dieu. Dieu dit. Dieu dit. La puissance de Dieu est encore capable aujourd'hui, frères et sœurs, de nous délivrer, de nous venir en aide. Donc, il est évident que le chrétien, en particulier l'Église de Jésus-Christ, nous sommes parfois sous la mentalité du monde. Et les hommes vivent repliés sur eux-mêmes. Et trop de chrétiens, malheureusement, vivent ainsi en ne s'intéressant qu'à eux. Frères et sœurs, j'assume ce que je dis. J'assume. Et comme je l'ai dit, je ne juge personne. Mais il n'y a qu'à voir parfois nos réactions. Il n'y a qu'à voir parfois notre attitude. Nous sommes centrés sur nous-mêmes. Vous savez, lorsque Jésus est venu sur la terre, qu'est-ce qu'il va faire ? Caresser les gens dans le sens du poil, en disant, vous êtes dans une bonne mentalité, continuez. C'est une bonne façon de vivre. Non, Jésus a confondu les hommes. Jésus, lorsqu'il a confondu les raisonnements, il a renversé les mentalités des hommes. Pourquoi ? Parce que c'est ces choses-là qui nous empêchaient d'atteindre Dieu. Et lui étant venu pour révéler le Père, étant venu pour nous montrer l'amour de Dieu, il est évident qu'il renverse ces mentalités et nous amenait tout droit à vivre dans la mentalité du royaume de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans ce monde. Mais nous ne devons pas nous laisser entraîner par la mentalité de ce monde. Nous devons être sous l'influence de la mentalité du royaume de Dieu. Et c'est ça qui doit être notre préoccupation. C'est ça qui doit prendre toute la place dans nos vies. Son désir est que celui qui lui appartienne, celui qui est appelé à le refléter parmi les hommes, soit animé d'une autre mentalité que celle de ce monde, à savoir la mentalité du royaume de Dieu. Je ne peux pas refléter Dieu Je ne peux pas être à l'image de celui qui m'a créé si toutefois je demeure là où j'étais lorsque le Seigneur m'a rencontré. Il faut que j'accepte de sortir de cette mentalité. Il faut que j'accepte de ne plus être sous l'influence. Il faut que j'accepte de ne plus me livrer à cette mentalité-là pour être à l'opposé. Je ne dis pas que je dois vivre sur une île déserte. Je suis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Alors, il y a, lorsque Jésus annonce que le royaume est proche, vous savez, quand il va prononcer cette parole, les Juifs se sont demandé comment y entrer. Parce qu'ils pensaient à un royaume terrestre. Ils pensaient à une domination terrestre humaine. Lorsque Jésus va leur dire que le royaume de Dieu est proche, ils se demandaient comment il rentrait. Mais la réponse de Jésus montre que ce royaume suit d'autres principes que celui de ce monde. Ce sont deux royaumes diamétralement opposés avec des principes opposés. Sinon, si le royaume de ce monde plaisait à Dieu, pourquoi se donnerait-il tant de peine pour nous livrer son Fils unique, Jésus, pour mourir à notre place? La réponse de Jésus montre que le royaume de son Père suit d'autres principes que ceux du monde. Notre royaume, le royaume de ce monde, est influencé par la richesse. Le royaume de ce monde est influencé par la puissance des hommes, par l'autorité. La preuve en est que ce qui se passe aujourd'hui montre que les hommes cherchent à établir leur propre pouvoir, leur propre autorité. Si bien qu'ils sont capables de faire, d'aller au-delà même de ce que Dieu attend des hommes pour pouvoir régner, pour pouvoir vivre. Mais Jésus montre que, voilà, richesse, puissance, autorité sont d'aucune utilité lorsqu'il s'agit du royaume de Dieu. Vous savez, ceux qui appartiennent à ce royaume-là, recherchent d'autres biens et adoptent d'autres attitudes. Cherchez premièrement. Voyez, ce qui est important dans ce texte, c'est que Jésus n'a pas dit à ses disciples, ne cherchez jamais ce que vous cherchez. Ce n'est pas ce que Jésus a dit. Il n'a pas dit, voilà, ne cherchez pas ces choses-là. Il a dit, cherchez premièrement. Premièrement. Mettez la priorité. Donnez plus de valeur. Donnez plus d'importance. Et lorsque vous aurez fait cela, regardez ce que votre Père va faire pour vous. Et parfois, on s'efforce. On prie, on dit, Seigneur, vois cette situation, il faut qu'elle soit débloquée, vois cette situation, il faut que tu agisses. Nous faisons bien. Mais Jésus dira, cherchez premièrement. Il ne dit pas que nos prières, l'objet de nos prières n'est pas bon, c'est pas ce que Jésus dit. Mais il dira, cherchez premièrement, donnez plus de valeur. Puisque je vous ai fait sortir de ce monde et de sa mentalité, voilà votre priorité aujourd'hui. La question que l'on pourrait se poser et que chacun de nous devrait se poser, que laisse transparaître mon attitude lorsque je suis dans un besoin, lorsque je suis dans une situation, que laisse transparaître mon attitude? Vivons-nous égoïstement dans notre propre suffisance? Où vivons-nous dans l'humilité et dans la dépendance totale à notre Seigneur? Vous savez, un des enseignements de Jésus sur la montagne nous en dit plus. Dans le même évangile, au chapitre 5, verset 3, il nous est dit ceci. « Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, puis, ayant ouvert la bouche, il enseigne et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Heureux les pauvres en esprit. Qui sont ces pauvres en esprit? Qui sont-ils? Qui sont ces pauvres en esprit? Jésus montre par là que si nous voulons être au bénéfice des bénédictions spirituelles, nous devons suivre des règles données par le Seigneur lui-même. Vous savez, en tant que chrétien, il n'est pas question de nous laisser guider par les valeurs de ce monde, mais celles qu'enseigne la parole de Dieu. Et c'est quoi ces règles de vie? C'est être pauvre en esprit. Et c'est quoi être pauvre en esprit? Qu'est-ce que Jésus voulait dire par là? Heureux les pauvres en esprit. Les pauvres en esprit. Vous savez, c'est celui qui a reconnu et qui a accepté Christ dans son cœur et en vivant, il ne dépend que de lui-même, que du Seigneur. Il ne dépend que de Jésus-Christ. Il ne vit plus pour lui-même. Il a besoin de la vie de Christ, de la grâce de Christ et de la puissance du Saint-Esprit. Il ne se laisse plus conduire par ses propres sens. Il réalise que dans sa marche avec le Seigneur, ce n'est plus son raisonnement qui compte. Il réalise que dans son cheminement avec Dieu, ce ne sont plus ses pensées-là. Même si il a de la sagesse, même si il a de l'intelligence, il met toutes ces choses de côté et accepte la direction que le Seigneur lui donne. Vous savez, nous raisonnons beaucoup et trop même. On raisonne trop. Mais voilà ce que je veux. Parfois, on me dit, Seigneur, je sais que c'est écrit, mais qu'est-ce que vous voulez que je dise alors? Qu'est-ce que vous voulez que je dise si c'est écrit, mais vous dites mais? Je ne peux plus vous convaincre. Je ne suis pas là pour vous convaincre. Je sais, mais faites alors ce qui est écrit. Faisons ce qui est écrit. Et nous vivrons heureux. Le Seigneur me demande d'aimer, mais je dis, mais, pasteur, vous ne savez pas ce qu'il m'a fait. Hein? Si tu savais ce qu'il m'a fait, c'est écrit de pardonner, mais, ah, Seigneur, tu sais pas, c'est pas possible, quoi. Mais, vous savez ce mot, M-A-I-S, quatre lettres. Il nous cause des torts. Il nous cause des torts. Un petit mot avec de grandes conséquences. Parce que lorsqu'on se laisse aller à cela, on passe à côté de ce que le Seigneur veut pour nous. Jésus dira, heureux les pauvres en esprit. Les pauvres en esprit. Ils oublient ce qu'ils sont, ils oublient ce qu'ils ont, et ils acceptent ce que le Seigneur permet qu'ils soient et ce que le Seigneur leur donne. Voilà ce qui procure le bonheur. Heureux, les pauvres en esprit. Non seulement ce royaume se manifeste par la venue du Seigneur et ce jusqu'à ce qu'il revienne nous chercher, mais le royaume se manifeste aussi par la puissance du Saint-Esprit. Vous savez, en enseignant ses disciples, Jésus va leur montrer que leur prière doit s'intéresser au royaume de Dieu, sur terre et son accomplissement dans l'avenir. Il dira ceci, « Voici donc comment vous devez prier. » Ah, vous savez, on aime tellement la prière de notre Père. Et on le récite. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que voilà, cette prière nous engage à bien des choses. Elle nous engage. Elle nous responsabilise. « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. » Jusque-là, tout va bien. Et on le proclame fort, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Mais après, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. On n'ose pas le dire à haute voix, ces deux paroles-là. Mais le premier, on le crie au fort, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Ça nous implique, ça nous responsabilise, ça nous met devant nos responsabilités, ça nous engage à quelque chose. Parce que quand on prie, qu'est-ce qu'on recherche? C'est pour cela que je vous ai dit tout à l'heure, écoutons nos prières. Quand on prie, qu'est-ce qu'on cherche? Est-ce uniquement la satisfaction de notre besoin? On prie uniquement pour que le Seigneur nous exauce. Ne répondez pas tous à la fois. Quand on prie, et je me mets dedans aussi, hein, je me mets dedans aussi. Quand on s'adresse à Dieu, vous savez, de vous à moi, quelles que soient nos années de conversion, de vous à moi, quand on prie, ce qu'on recherche parfois le plus, c'est uniquement l'exaucement de notre prière. Mais Jésus montre qu'il doit y en être autrement. Parce qu'au-delà de l'exaucement, il faut porter un intérêt, une attention particulière à celui qui nous exauce. Elle est là la différence. Voilà ce qui fait toute la différence dans la vie du croyant. On s'acharne tellement à l'exaucement. On s'acharne, on s'attend plus à ça. Au lieu d'avoir cette intimité-là avec le Père, avec le Dieu qui donne. Que ton règne vienne. C'est-à-dire, Seigneur, quand je prie, vous savez que ton règne vienne, ta volonté soit faite. Ces deux paroles vont de pair. Parce que la volonté de Dieu ne peut pas s'accomplir si je n'accepte pas que Dieu règne sur ma vie, que Dieu règne sur ma situation. Parfois, on dit, Seigneur, que ta volonté soit faite, mais on tient toujours la corde. Ouh, c'est dur à lâcher la corde, hein. Elle est dure à lâcher. On s'agrippe. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que Dieu règne. Parce que si Dieu règne, c'est-à-dire, Seigneur, ce n'est plus comme je pense, ce n'est plus comme je vois. Seigneur, tu fais ce que tu veux. Ah, tu fais ce que tu veux. Et ça, c'est difficile. C'est difficile d'acquiescer, hein. Pourquoi? Parce que, malheureusement de vous à moi, parfois il y a de l'orgueil devant Dieu. Il y a de l'orgueil. Mais le Seigneur nous montre quand même, voilà, que c'est une des priorités. Notre priorité devrait être la présence spirituelle et la manifestation du royaume de Dieu aujourd'hui. Vous savez, ce qui est important, ce n'est pas l'exaucement. Hein. Ce qui est important, c'est la puissance de Dieu dans nos situations. C'est ça qui importe. Quand je me focalise tellement sur l'exaucement, parfois, c'est là qu'on retrouve parfois le cœur du véritable chrétien. Parce que quand l'exaucement tarde à venir, comment je réagis? Comment nous réagissons? Comment nous réagissons lorsque l'exaucement tarde à venir? Alors qu'on prie, on dit, Seigneur, tu vois cette situation. On engage, parfois, on mobilise parfois toute l'église, les frères et sœurs. On prie. Et parfois, on fait même une chaîne de prière. On prie. On demande à d'autres assemblées de prier et on prie. Mais parfois, il arrive que la réponse soit contraire à ce que nous avons demandé. Dans cette situation, nous faisons comment? Nous faisons comment? On s'attendait tellement à l'exaucement de notre prière. On voulait coûte que le Seigneur agisse. Parce qu'on s'est agrippé à notre propre volonté. On veut tellement que le Seigneur fasse comme nous voulons. Vous savez, mon épouse n'est pas là, donc je peux parler d'elle. Vous savez, quand on est arrivé sur Gap, elle qui avait travaillé pendant plus de 10 ans à la Timone en tant qu'infirmière, elle s'était fait un film dans sa tête. Puisque je suis arrivé ici pour en tant que pasteur, elle a fait sa disponibilité pour suivre son conjoint. Et dans sa tête, c'était évident qu'en venant là, la porte était déjà ouverte pour elle de travailler à l'hôpital. Elle s'était déjà fait un film. J'arrive après mon congé maternité. Ah, voilà. Ça n'a pas été comme cela. Et elle s'acharnait. Combien de fois j'arrive, voilà, je la vois triste, je la vois pleurer, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai déposé ma candidature et ils m'ont dit qu'ils n'ont pas de poste pour moi. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et elle s'acharnait, mais un jour, j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai dit, écoute bien. Si tu n'acceptes pas ta situation, tu vas souffrir encore plus. Si tu ne l'acceptes pas, faut pas voir tellement ce que tu veux devant Dieu, mais vois ce que Dieu veut pour toi. Elle est là la différence. Ce n'est pas tant ce que je veux, mais c'est ce que Dieu veut pour toi. Sa réponse, c'est parce que toi, tu ne vis pas la chose. Je dis, écoute, je ne peux pas t'aider plus. Hein. Jusqu'au jour où c'est le Seigneur lui-même qui nous parle, qui lui dise les mêmes paroles. Et quand elle m'a dit ça, j'ai dit, merci Seigneur. Parce que tu as vu en ton mari un pauvre pasteur qui juste dit des paroles. Mais le Seigneur me l'avait mis à cœur. Dis à ton épouse de lâcher prise. Et quand elle a fait ça, ne voulant plus, disant, Seigneur, que ta volonté soit faite, quand elle a fait ça, une porte s'est ouverte. Et aujourd'hui, elle se réjouit de ce qu'elle fait. Parce qu'elle est là où le Seigneur le veut, la veut, au moment où le Seigneur la veut. Frères et sœurs, ce qui est important, c'est la puissance de Dieu parmi le peuple de Dieu, pour briser nos raisonnements, pour nous amener à avoir les pensées de Christ. Vous savez, cette puissance-là, elle est d'une importance capitale. Parce que c'est cette puissance qui nous a attirés au Seigneur. C'est cette puissance qui nous a fait sortir des ténèbres au royaume de lumière. Et c'est cette puissance encore aujourd'hui qui est capable de détruire l'œuvre du diable. C'est cette puissance-là qui est capable encore aujourd'hui de guérir les malades. C'est cette puissance-là qui est encore aujourd'hui capable aujourd'hui de sauver des âmes. Voilà ce qui doit faire l'objet de nos prières. Pas tant ce que nous voulons, pas tant ce que nous demandons au Seigneur, mais Seigneur, que ta volonté soit faite. Ah, c'est pas facile, hein. C'est pas facile cette parole. Je l'admets. Je l'admets. Mais vous savez, le royaume de Dieu, ce n'est rien d'autre qu'une affirmation de la puissance de Dieu en action. Et cette, vous savez, cette manifestation dérange le diable et ses agents. Et qui que nous sommes, nous devons nous soumettre aux règles de Dieu. Que ta volonté soit faite. Dieu veut régner dans les vies, dans les situations, mais dans la mesure où sa volonté est acceptée. Si je n'accepte pas la volonté de Dieu, le règne de Dieu ne pourra pas s'établir. Il y a là un désir profond quand même que le Seigneur voudrait, je termine par là, amener son Église. Il doit y avoir dans le cœur un désir profond de voir le dessein de Dieu s'accomplir dans nos vies selon son plan à lui. Selon son plan à lui. Nous concoctons tellement de plans. Et on est champion là-dedans. On se dit, oui, si tellement ça se passe comme cela, comme si tout est cadré. Mais le Seigneur parfois nous fait sortir de notre cadre. Justement pour nous amener à réaliser que c'est lui qui est au contrôle. Il est souverain. Il est souverain. Frères et sœurs, Jésus dira, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Qu'est-ce qu'on n'a pas compris là-dedans? Mais nous cherchons les choses par-dessus avant ce que Dieu nous demande. On renverse l'ordre des choses. Ne soyons pas surpris de voir parfois que nos prières ne soient pas exaucées. Ne soyons pas surpris de voir que nous n'avançons pas. Ne soyons pas surpris de voir que nous ramons. Parce que nos priorités sont tellement à l'opposé de ce que Dieu veut, de ce que Dieu attend de nous. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Veux-tu ce matin dire, Seigneur, règne sur mon cœur, règne sur ma vie, règne sur ma situation, règne sur ma famille, règne sur mon foyer, règne sur mon couple. Veux-tu laisser le Seigneur prendre le dessus ou vas-tu continuer à t'efforcer à vouloir contrôler la chose? Veux-tu encore lutter? Et jusqu'à quand vas-tu lutter? Jusqu'à quand vas-tu accepter de lâcher prise? Je ne dis pas que c'est facile, hein. C'est pas ce que je dis. Mais c'est la confiance, C'est la confiance en notre Seigneur, au regard de ce qu'il est et de ce qu'il a fait, qui nous amène à dire, Seigneur, maintenant je comprends, je laisse. Fais ce que tu veux. Lui-même, quand il est venu, il a dit, je ne suis pas venu pour faire ma propre volonté, alors qu'il avait la capacité de faire ce qu'il voulait. Mais il a dit, je suis venu pour accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. Qu'est-ce qu'on n'a pas compris là-dedans? Alors qu'il était Dieu, pouvant en un instant accomplir sa volonté. Lorsque, ses disciples étaient là, Jésus, il y avait des hommes qui s'acharnaient, Jésus, ils ont demandé à Jésus, veux-tu que l'on... Jésus dira, non, ne suis-je pas capable de réclamer une légion d'anges à mes côtés? Il avait la capacité, il avait le pouvoir. Mais il dira, je ne suis pas venu pour faire ma propre volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Frères et sœurs, au regard de ce que nous vivons aujourd'hui, l'Église n'est pas épargnée. Le monde souffre, mais l'Église aussi. Et pourquoi l'Église souffre? L'Église souffre parce qu'elle ne fait pas ce qu'il faut. Nous souffrons parce que nous ne faisons pas ce qu'il faut. Parce que nous nous acharnons tellement à nous-mêmes, à l'exaucement de nos prières, plutôt qu'à celui qui est capable de nous venir en aide. Cherchez premièrement le royaume. C'est simplement dire, Seigneur, au regard de ce que je suis, je ne veux plus me regarder moi-même, mais je veux regarder qu'à toi. Je ne veux plus vivre pour moi-même. Je veux vivre pour toi. Je ne veux plus voir la situation telle qu'elle est. Je veux te voir au-dessus de la situation. Je veux te voir plus grand que la situation. Je ne dis pas qu'en un clin d'œil, tout va se régler. Ce n'est pas ce que je dis. Mais tout doucement, le Seigneur nous amène à voir les choses autrement. Notre perspective de vie change. Notre façon de voir les choses change. Parce que le Seigneur nous ouvre les yeux et nous ne nous acharnerons plus à ce que nous voulons, mais nous livrerons nos forces en disant, Seigneur, ce que nous voulons, c'est que ton nom soit glorifié, c'est que ta volonté soit faite, c'est que ton règne vienne. Que Dieu soit béni. Oui, que Dieu soit béni. La prochaine fois, Dieu voulant, nous verrons ce qu'est la justice de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Amen. Quelle grâce, Seigneur, pour nous encore de vivre ces instants devant toi, dans ta présence, et de savoir, Seigneur, que tu t'occupes de nous. Depuis le jour, Seigneur, où tu es venu à notre rencontre, Seigneur, jusqu'au jour où tu reviendras nous chercher, tu es là chaque jour à nos côtés. Je bénis ton saint nom parce que même dans la difficulté, dans nos déboires, dans nos faiblesses, où parfois, Seigneur, nous te sentons tellement loin, Seigneur, parce que nous ne voyons pas l'aboutissement, Seigneur, même dans ces situations, tu es là. Et tu nous encourages, au lieu de porter une attention particulière à notre situation, Seigneur, tu nous amènes à lever les yeux et à croiser ton regard de Père, à réaliser que tu es ce Dieu qui est au contrôle. Oui, tu règnes sur toutes les nations, Seigneur, mon Dieu, quel que soit ce qui se passe, Dieu, tu es au contrôle. Et Seigneur, je veux bénir ton Saint-Nom, parce que je suis au service de ce Dieu qui est au contrôle, Seigneur. Oh, bénis mes frères et sœurs, bénis ton Église. Oh, Seigneur, aide-nous encore, donne-nous cette force. à chaque instant, Seigneur, mon Dieu, de rechercher ce qui a de la valeur à tes yeux. Seigneur, fais grâce, Seigneur.